Bien, bonjour, merci d'être venu à cette conférence de l'après-midi sous la chaleur de Zoom du Magic Mirror numéro 1. Nous avons la grande chance de pouvoir passer une heure avec David Anthony Durham pour pouvoir discuter avec lui et puis essayer d'appréhender un petit peu plus son œuvre. Nous avons deux participants à cette table ronde qui vont nous aider et nous filer un gros coup de main. Tout d'abord, sa traductrice, Jocelyne Bourbonnière, qui va pouvoir passer beaucoup en français. Si comme moi vous ne savez rien en anglais. Et puis nous avons aussi un lecteur, Nicolas Barret, qui va nous lire trois extraits de la vie d'Anthony Durham, qui nous permet de rentrer vraiment au cœur du texte. David Anthony Durham est né en 1969. Et la première question que j'ai un petit peu envie de vous poser, c'est toujours la question que l'on pose aux auteurs. Quels sont les auteurs qui vous ont influencé, les premiers auteurs qui vous ont marqué?
Thank you, Durham. That's always a hard question for me because I was influenced by very different writers at different points in my life. I would say that at the beginning, when I was a boy, it was, of course, fantasy. Tolkien and C.S. Lewis and Lloyd Alexander and Ursula K. Le Guin, the writers that I read when I was just learning to love reading.
Alors, merci Jérôme, c'est une excellente question. J'ai eu beaucoup d'influence, mais quand j'étais tout petit, j'ai commencé par un peu de littérature fantastique comme Tolkien ou C.S. Lewis, ou ce genre de littérature. Donc, j'ai commencé par ça.
Et Ursula K. Le Guin.
Ursula
K. Le Guin.
Je ne connais pas. Merci.
And, but then later, when I was in college, my reading tastes changed, and I began reading a lot of literary fiction and African American and world literature as well. Mario Vargas Llosa and Gabriel Garcia Marquez, Toni Morrison, Margaret Atwood. I often liked stories that combined historical topics with quality writing, serious writing.
Et plus tard, quand je suis allée à l'université, j'ai un petit peu changé. J'ai commencé à lire de la fiction, un petit peu de fiction littéraire. Et j'ai beaucoup aimé certains auteurs afro-américains, mais j'ai beaucoup aimé aussi des auteurs de littérature moderne, ce que nous appelons aujourd'hui la littérature moderne, comme Vargas Llosa, ou Garcia Marquez, ou Toni Morrison, ou Margaret Atwood. J'aime bien un petit peu cette fiction sérieuse qui combine d'autres éléments donc de l'extérieur. Donc pour moi, c'était ce qui m'attirait.
And I wrote several novels that were historical novels. I have three historical novels. But then something happened. I rediscovered my love of fantasy and science fiction. And I know exactly when it happened, really. I was in Scotland, and the book was Dune by Frank Herbert.
Et plus tard, bon, moi j'ai écrit trois romans historiques, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, et j'ai redécouvert après, en fait, cette passion que j'avais eue dès le départ pour le genre de la fantasy et de la science-fiction. Et j'ai travaillé quelques temps en Écosse, et c'est là où j'ai découvert la série Dune de Frank Herbert.
I was listening to it as an audiobook. And I was taking walks, long walks in Scotland, and part of the way in, I just stopped on the path and felt kind of amazed at how caught up in the story I was. It was completely intelligent and intellectual and challenging, but it was also just so imaginative, and I wanted to do that myself.
Et donc j'écoutais cette série parce que c'était des livres audio et j'écoutais la série en me baladant en Écosse et à peu près à mi-chemin dans la série je me suis arrêtée et je me suis dit mais c'est extraordinaire, c'est intelligent, c'est vraiment bien fait, bien écrit, bien structuré et je me suis dit que peut-être je pourrais me lancer dans une voie similaire.
So since then I've read all science fiction, fantasy, horror, a little bit of crime fiction in there as well. For fantasy, of course, George R. R. Martin is the top. I will often read a space opera, like Peter Hamilton or Ian Rankin. Ian Banks. And I'll read some crime writing, which is Ian Rankin.
I've met him. Et donc, après, j'ai écrit pas mal, en fait, j'ai lu pas mal en tant que lecteur, pas mal de science-fiction, d'horreur. Bien sûr, dans le genre fantasy, j'aime beaucoup George R.R. Martin. Mais aussi, j'ai lu du space opera de Peter Hamilton ou Ian Banks. Mais j'aime bien aussi le polar, j'aime beaucoup Ian Rankin.
Ok. Là, on est un petit peu sur vos influences. On a déjà commencé à parler de vos premiers romans. Comment est-ce que vous avez commencé à écrire? Quel a été le déclic? Est-ce que vous avez toujours écrit ou c'est venu plutôt sur le tard?
When I was in 8th grade, which means sort of 14 years old, let's say, I had to keep a journal in one of my classes, and I wrote stories in it. And in one of my entries in the journal, I declared that I was going to be a writer. And then I forgot about that promptly as I became a proper teenager.
Alors quand j'étais au collège, je devais avoir 13 ou 14 ans. Pour un de mes cours, on devait écrire un journal intime. Et dans une des histoires j'y ajoutais des petites histoires, des anecdotes, j'y ajoutais plein de choses. Et un jour, j'ai écrit que plus tard, je voulais devenir écrivain. Mais j'ai tout de suite oublié. Tout de suite après l'avoir écrit, j'ai oublié.
As with many things, I eventually remembered what I'd written when I was smart and young. And in college, I began taking creative writing courses, and I did a lot of workshop critiquing of people's stories and of my stories, and they very quickly became novels. I only wrote a few short stories before I wrote one that became the idea for my first novel. It's not a novel you will ever have heard of, though, because it was never published, nor was the second one that I wrote. So I have two novels that are forever stored away, and that's okay.
Alors, j'ai fini par me souvenir de ça beaucoup plus tard, de ce que j'avais décidé de devenir écrivain. Et quand j'étais à l'université, j'ai suivi des cours d'écriture et des sortes d'ateliers d'écriture où ça fait partie du cursus de l'université, du programme de l'université, où on se réunissait et on se critiquait les nouvelles les uns des autres. Donc j'ai écrit quelques nouvelles et dans le cadre de ces cours et qui m'ont donné envie d'écrire des romans. Donc une ou deux de ces nouvelles sont devenues ultérieurement des romans, mais je ne les aurais jamais lues parce que ces romans, je les ai rangés et puis ils n'ont jamais été publiés, ils ne sont pas à la veille d'être publiés.
I even went to graduate school and got a Master of Fine Arts degree in creative writing. And then I left that program and I went out into the world. So what had happened there was that I had learned how to write fiction for academics. I hadn't necessarily learned how to write fiction for an audience of real people. So I spent the next 5 years working on my own and being read just by family and friends as I tried to find how to combine my interest in writing with writing stories that would appeal to an audience.
J'ai continué, j'ai fait un master en écriture, donc c'est un programme qui existe aux États-Unis, un master d'art, mais c'est en écriture. Et donc après je suis partie dans le vrai monde, hein, travailler dans le vrai monde, dans le monde réel. Et je me suis rendu compte que j'avais appris à écrire de la fiction, mais pour le contexte universitaire. Donc j'ai passé les 5 années suivantes à apprendre à écrire pour le public. Donc pendant 5 ans, après, j'ai travaillé à mon écriture et j'ai été lue par mes amis, les membres de ma famille. Et c'est là où j'ai vraiment appris à développer un style qui plairait au lectorat.
And that continues. I've published 6 novels now, but I'm still always trying to find out how to better appeal to an audience and connect with people.
Et ça continue, ça fait 6 romans là que j'ai publié, mais je continue d'essayer de trouver comment atteindre le lectorat, comment les toucher et comment les rejoindre. Et donc je continue dans ce travail.
Quelle est la place de ce lectorat justement? C'est une question un peu plus tard, mais on va revenir tout de suite. Puisque vous écrivez pour le lectorat, est-ce que vous êtes attentif aux réactions? Est-ce que parfois vous êtes attentif aux idées? Quels sont un peu les échanges que vous avez?
Yes, absolutely. I mean, without readers, I'm nothing. So I certainly want to write fiction that, yes, entertains and engages them, but I also want it to challenge them and to introduce, hopefully, new ideas or new ways of looking at old problems. But there are definitely times when I will take reader feedback and when it has affected my writing.
Ben, sans mon lectorat, je n'existe pas, c'est aussi simple que ça en tant qu'auteur. Et je cherche à les amuser, à les stimuler, à les faire réagir, à susciter leur intérêt. Et je tiens compte de leurs idées. Il est même arrivé que les idées qui viennent de mes lecteurs m'aient influencé. Je vais vous le raconter.
For example, I heard from a number of readers and reviewers and online that the first book for them of Acacia, when it started out, there was a lot of world building, and some people wished it was moving faster early on. And when I went back and looked at that book, it's the first book in the series, I thought, you know, I can see that. And we did a special edition, a re-edition of the books in the States. And when I did that, I went back and made some small cuts and changes just to speed up the beginning of the book a little bit. And I'd like to think that the book as it exists is quite good, and the new version is just a slight variation that I'm glad to have been able to respond to those readers.
Quand j'ai publié le premier volume d'Acacia, une des critiques que l'on a formulées à l'endroit du bouquin, c'était qu'il était peut-être trop lent, que, bon, c'est très descriptif parce que je parle d'un nouveau monde, donc c'est normal que j'ai fait plein de descriptions. Et je suis donc retournée au livre et pour la deuxième édition aux États-Unis, j'ai apporté pas mal de changements, j'ai abrégé certains passages et donc oui, je trouve que le livre il marche pas mal dans son édition d'origine, mais c'était intéressant également d'effectuer ces changements à partir des commentaires de mes lecteurs dont j'ai vraiment tenu compte.
And it's very important to me that I put everything I can into writing the best book that I can each time out. It's not like I just write them fast and put them out there, because I know for readers, if someone is going to spend their money to buy a book and then put their time into it, I want it to be worth it, and I want it to be a satisfying experience every time.
C'est un petit peu une question de respect pour mes lecteurs. C'est important pour moi de travailler du mieux possible et de fournir le meilleur livre possible. Je sais qu'ils vont dépenser de l'argent pour acheter mon livre et qu'ils vont prendre le temps de le lire. Donc pour moi, c'est important de leur livrer un produit de la meilleure qualité possible.
On va parler d'Acacia plus spécifiquement, mais avant qu'on rentre un petit peu dans le détail d'Acacia, j'aurais souhaité que Nicolas nous lise le premier chapitre du premier roman.
Justement, oui. L'assassin se glissa entre les battants de pain massif de la porte principale et quitta la forteresse de Tarian. Il partit au lever du soleil, sous la vêture commune à un soldat de main. Il était enveloppé dans une cape en peau d'élan. Elle recouvrait ses jambes et réchauffait sa robuste monture. Sur son torse était sanglé un plastron constitué de deux carapaces de fer, moulées, enserrant une couche de fourrure de loutre. Il prit la direction du sud, dans un paysage scintillant de gel. Le froid de l'hiver était si mordant que pendant les premiers jours, le souffle de l'homme se cristallisait au sortir de ses lèvres. La vapeur formait une protubérance étrange autour de sa bouche, comme un tunnel éphémère. Des nœuds de glace pendaient à sa barbe et se heurtaient, tels des carillons de verre. Il ne croisa presque personne, même quand il traversa des villages d'habitations basses, aux toits en forme de coupole. Il aperçut des traces de renards blancs et de lièvres, mais très peu d'animaux. Une seule fois, un lynx l'observa depuis un rocher, l'air de le savoir s'il devait fuir ce cavalier ou lui donner la chasse. Finalement, il resta immobile, et l'homme le laissa derrière lui. Plus tard, il accéda au sommet d'une colline et contempla un rassemblement de rennes dans la plaine en contrebas. C'était un spectacle rare. Tout d'abord, il crut se trouver en présence d'une assemblée du monde des esprits. Puis, il sentit l'odeur musquée des animaux, ce qui brisa toute ambiance de mystère. Il passa au milieu d'eux et goûta un plaisir simple à les voir s'écarter devant lui, dans un grondement de sabots qui résonna jusqu'au tréfonds de sa poitrine. Si les terres du Maine avaient appartenu à ses habitants, il aurait pu chasser ses animaux, comme ses ancêtres l'avaient fait. Mais la réalité était tout autre. La race des hommes appelée Mand, sur les hauts plateaux du même nom, avec la grande forteresse de Taalian, cette lignée royale qui aurait dû régner sans partage sur ce territoire, tous étaient les serviteurs d'Acacia depuis maintenant 500 ans. Après avoir été vaincus et massacrés en grand nombre, ils avaient dû plier les Chines sous le joug de gouverneurs étrangers. On les avait écrasés sous des impôts indus. On leur avait volé leurs guerriers. Beaucoup d'entre eux servaient dans les rangs des armées acassianes, en des contrées lointaines, hors de portée des voix de leurs ancêtres. C'était du moins ainsi que le cavalier voyait les choses. Une injustice qui ne pouvait durer éternellement.
Alors, on va remercier d'abord Nicolas pour cette lecture, cette belle lecture. Juste une petite aparté, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces mots traduits qui sont les vôtres, lus par un autre ?
I am very, very pleased. I love it. I can hardly recognize a word of what's happening, but I know what's happening because if you start at the beginning, I'm pretty familiar with that. That nothing gives me more joy as a writer than knowing that my stories are engaging with people all around the world. And that people have put the time and effort into translating. And whenever I get a foreign edition, when it comes to me from the publisher, I love it. I open it up and I stare in amazement at this story that I can't read, but which somehow is me as well. That's great.
J'adore, c'est un très grand bonheur pour moi d'entendre mes histoires dans une autre langue et surtout de savoir que mes histoires dans une autre langue, en traduction, continuent de toucher les gens et pour moi c'est vraiment extraordinaire. Et chaque fois que je reçois un de mes livres en traduction de mon éditeur, je regarde attentivement et je suis vraiment extrêmement touchée de voir qu'on a pris le temps de traduire mes bouquins, mais aussi que les lecteurs peuvent me lire. Il y a quand même un petit peu de moi dans cette histoire et peuvent me lire dans une autre langue. Oui, je suis très touchée.
I still remember when I had my first book was almost out and I went to have dinner with a writer friend who had a very successful first novel, Jeffrey Lent is his name, and he showed me his bookshelves where he had copies of his foreign editions, and I was so jealous. But I thought maybe one day I'll be able to show people my bookshelves with foreign editions, and I can now.
Je me souviens, il y a un moment, j'étais allée dîner avec un auteur, Jeffrey Lent, qui a eu un énorme succès avec son premier roman. Et il m'avait montré son étagère avec son livre, mais en traduction. Donc il y avait plusieurs versions dans différentes langues. Et j'étais admiratif, mais en même temps très jaloux. Et je me suis dit que peut-être un jour ça m'arrivera aussi. Et ben ça y est, maintenant ça m'est arrivé et c'est très bien.
On a entendu le début. Comment est-ce que vous avez commencé à imaginer cette trilogie et ce monde? Quelle a été l'idée du départ?
Lots of different things, lots of different pieces. For one, before this, I'd written a historical novel about Hannibal and his war with Rome. And it was a very big story of warfare and lots of nations and lots of characters, lots of points of view for these different characters. And it was such an epic story that when I left that, I wondered, you know, where will I find another story as epic as that? And the first thing that came to mind was, as I was getting this itch to go into fantasy again, that the best place to go for a story as epic as that is into a fantasy world, a world of my own creation.
Alors, j'ai commencé par écrire du roman historique. Mon premier roman concernait Hannibal et sa guerre contre Rome. Et donc, dans ce roman, vous pouvez imaginer, il y avait des conflits, il y avait beaucoup de personnages et beaucoup de points de vue différents de personnages. Et j'étais vraiment pris par ce roman et j'ai commencé à me demander ce que je pourrais écrire d'autre où je pourrais retrouver un monde tout aussi riche. Et m'est revenu en fait mon amour pour le fantasy, la littérature de fantasy, et je me suis dit que c'était là où je pourrais recréer un monde et réécrire de nouveau un roman aussi épique que l'histoire d'Hannibal à Rome.
The next piece was to find the core characters, and I'll tell you a secret. The Akarin children, Oliver, Corin, Daryl, and Mina, are based in some way on my wife's family. She is one of four siblings. She would be Mina. And there was something about each of them that inspired the characters. And yes, one of them, Beth, did become Corin. I don't know if she's very happy about that.
Et donc pour ce qui est de mes personnages principaux, moi je peux vous révéler un petit secret. En fait, il y a les quatre enfants royaux qui sont Oliver, Corinne, Dariel et Mina. Et pour tout vous dire, eh bien, mon épouse a trois frères et sœurs. Et oui, mon épouse Beth en fait est devenue le personnage de Corinne. Je ne sais pas si mon épouse est toujours contente ou était contente, mais bon, voilà, c'est comme cela que j'ai eu l'idée de la fratrie de quatre personnages, quatre enfants royaux.
C'est toujours ça.
And she's still your wife.
Yes. Fortunately, Mina is a warrior princess in many ways in the book. My wife is not that, but she does have a temper.
Et donc la question, c'était est-ce que vous êtes toujours mariés? La question de Nicolas, et la réponse est oui, on est toujours mariés. Il faut savoir que Mina, c'est un personnage de princesse guerrière. Et bon, mon épouse n'est pas une princesse guerrière, mais elle a beaucoup de tempérament.
And the next thing was to, I wanted them to be cast out into a world where the system of society that they had been born into and had perceived a certain way was revealed as being a very different thing than what they'd been taught to believe. And they were faced with learning about the world as it really is, learning about the crimes of their own family that they have inherited, and being brave enough or not to do something about that, to try to move forward from there.
Alors, ce que j'ai eu envie de faire, c'est d'écrire un contexte où les quatre, la fratrie, donc les quatre, seraient rejetés par leur société, découvriraient que la société dans laquelle ils ont grandi n'était pas du tout ce qu'ils pensaient. Ils finiraient par découvrir que cette société où ils étaient heureux, ils étaient contents et satisfaits, bien cette société était en fait basée sur le crime. Et je voulais qu'ils soient confrontés à la réalité de cette société, qu'ils découvrent le vrai visage de la société dans laquelle ils ont grandi, et qu'ils aient ensuite le courage ou non de faire quelque chose et de réagir à cette société. Donc pour moi, ça, c'était ce que j'avais envie de mettre en scène.
And the world they head into, for me, it was important that it be a multicultural world that reflected human diversity. These are not books of elves and dwarves. They're books peopled with people that look like us and all of our shades and skin tones and ethnicities. But I'm also not exactly duplicating Earth. I could use, I could, you know, restructure the geography and move nations closer together than they might have been otherwise, and hopefully begin with a multicultural world that looks like ours, but that isn't hampered by the history that of our world. It's multicultural, but new.
Et j'ai eu ensuite envie de créer un nouveau monde, le monde dans lequel s'aventure la fratrie des quatre enfants royaux. Et j'ai eu envie que ce monde soit un monde vraiment multiculturel. Ce n'est pas un monde d'êtres surnaturels comme des lutins ou des nains, mais j'ai eu envie en fait de recréer un nouveau monde, un monde qui ressemble à notre monde dans lequel nous évoluons. La planète Terre, mais une planète un petit peu différente où les pays sont peut-être un petit peu plus proches, les continents sont peut-être un petit peu plus près les uns des autres. Donc j'ai créé un nouveau monde, un monde multiculturel qui, tout en ressemblant au nôtre, n'a pas la même histoire. J'ai voulu que ce monde soit entièrement nouveau, entièrement neuf.
Alors justement, sur ce monde, vous qui avez fait du roman historique, est-ce que c'est plus compliqué ou est-ce que c'est plus simple de mettre en place un peu le background du roman? Est-ce qu'il y a plus de recherches, moins de recherches, ou est-ce que vous avez plus de liberté? Il s'agit juste d'imagination.
Yes. Yeah, I think so. Because, yeah, with the novel about Hannibal, the number of things I needed to research was limited. But in this case, in each culture, it's almost like I'm doing a larger section of the world than I had to before, and I'm making it up. But for me, making it up did not mean that I could just, you know, throw things around casually. I wanted each nation to feel like it had a real history that was defined by their end culture and economics and landscape affecting them and all the things that are true to our world. I needed to create in this imagined world, but for them to be credible, I spent a lot of time reading world history and culture and mythology and taking things from that, stealing and using it to create my world.
Ah oui, j'ai fait énormément de recherches parce que quand j'écrivais sur Hannibal, la recherche était limitée à cette période-là. Mais moi, j'ai voulu créer un monde avec des cultures nouvelles et je ne pouvais pas juste jeter n'importe quoi sur le papier parce que, en fait, j'ai créé des pays différents, des contrées différentes. Et donc, j'ai été obligée de faire énormément de recherches pour créer beaucoup de nouveaux pays. Et je voulais que chacun des pays ait une histoire, une culture, une économie, une géographie propre à ce pays. Et donc, pour être crédible, il a fallu que je fasse énormément de recherches en histoire, mais aussi en mythologie. Donc, ça a demandé énormément de recherches.
Justement, Nicolas, un deuxième passage à nous faire écouter.
Vous prétendez que ce sont des dieux, intervint un des assistants de Gul'dan. Rialius eut un instant d'hésitation. Non, je dis seulement qu'ils sont horribles à contempler, très effrayants. Comme pour bien des aspects de son récit singulier, le gouverneur pouvait parler avec une honnêteté totale. Quand il s'était trouvé face au Numérax, il avait eu l'impression de regarder par une vitre déformante une époque immémoriale, peuplée d'êtres dont l'argile avait été cuit dans un moule différent de celui des créatures terrestres, fait pour habiter un autre monde, une ère plus ancienne. C'étaient des créatures de grande taille, dépassant celles d'un homme mortel de 3 ou 4 têtes, aux membres longs, aux épaules larges et curieusement plates, comme s'ils portaient une sorte d'empiècement rigide et carré sur la peau. Ils avaient le cheveu noir et le sourcil broussailleux. Rialus avait d'abord cru qu'ils s'étaient poudrés ou peints la peau, tant celle-ci était pâle. Mais quand il eut l'inconfort de se trouver tout près d'eux, il se rendit compte que c'était là leur teint naturel, une couleur semblable au mélange cérémoniel de lait arrosé de son de bouc que les Vadaïens boivent pour fêter la nouvelle année. C'était une membrane fine sous laquelle battait un lacis complexe de veines, aussi visible que si elles avaient été dessinées sur une feuille tenue devant une lampe. Kalrak, leur chef, montrait sa force dans l'attache noueuse de son cou. Ses traits eux-mêmes dégageaient une impression de tension féroce. Ses yeux étaient d'un brun si sombre qu'ils en semblaient presque noirs. Ses arcades sourcilières, proéminentes, étaient percées de plusieurs anneaux épais, en argent. Et le métal était si profondément enfoncé qu'il avait dû transpercer l'œil. Rialus eut les plus grandes difficultés à affronter ce visage, mais dès que son regard s'en détournait, il ne pouvait s'empêcher d'y revenir, terrifié par la constatation que la créature continuait de le fixer derrière ce masque effrayant. C'était un homme, sans en être tout à fait un.
Voilà, bravo, on va pouvoir le remercier. Voilà un exemple donc d'un nouveau peuple, tout au moins qu'on découvre. Comment est-ce que vous avez conçu les différentes factions un petit peu qu'on peut lire dans vos romans?
How did I come up? They, well, with everything in my books, I feel like my main characters, my point of view characters, are the ones who discover the world for me. So, how did I first know what the Numerek looked like? I first figured it out when I was there in the snow with another character, Lika Elaine, as the Numerek attacked. And it's in a blizzard, and they can't really see, but the army is lined up. And at some point, they know that something is out there. And at some point, the snow clears, and these monsters, what appear to be monsters, come at them out of the snow. And I see them in the same sort of horror as the army seeing them. The thing about that is that first impressions are not always, you know, that accurate, and there ends up being much more to that race of people than is obvious at the beginning. And I discover that when I follow a character that goes back to their home and sees where they came from and discovers that there is much about that culture that he had no idea of before.
Je me suis, comment j'ai conçu ces personnages, les Numerek, eh bien, je me suis placée un petit peu, je me suis mise dans la peau de l'autre personnage de Lika Allen quand il les voit arriver. En fait, dans la scène, il y a une tempête de neige, c'est un blizzard, et puis tout d'un coup, l'ennemi, ces monstres, émerge du blizzard et il est confronté à ces monstres. Et je me suis mis un petit peu dans cette position. Et je pense qu'il faut dire que les premières impressions sont souvent trompeuses, parce que l'un de mes personnages, après, ira chez les Numerek et il découvrira que, en fait, c'est une culture beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus riche qu'il n'imaginait lors de cette première rencontre.
It's important to me, though, that all the major characters and even major races in the book have their own valid point of view. So these barbarians that come over the world and invade, they do so not just because they're barbarians, but because they want and need things as well. And I like the balance of having them be more than they appear to be, but also having, in my own way, to figure out what is motivating them. And when I figure out what is motivating them, it, you know, brings life to the story, and hopefully makes even the villains sympathetic or understandable in some ways. You know, at some level, this invasion is happening throughout all three of the books because these people want to be able to have kids. You'd have to read the book to know what that means, but they want children.
Alors c'est toujours important pour moi de donner le point de vue des divers personnages et des diverses races que je crée dans le roman. Quand on voit ces barbares envahisseurs, et pour moi c'était important de donner leur point de vue aussi et d'expliquer leurs besoins et pourquoi ils deviennent des envahisseurs. Moi je cherche toujours en fait l'équilibre, j'ai envie d'expliquer leur motivation, qu'est-ce qui fait qu'ils ont ces besoins, d'où viennent ces besoins, et Je pense que c'est important de l'expliquer pour donner vie au roman. Et c'est important pour moi que les méchants ne soient pas uniquement méchants. C'est important pour moi d'expliquer pourquoi ils sont méchants. Et on verra plus tard qu'ils sont méchants parce qu'ils souhaitent avoir des enfants. Mais je ne vais pas tout vous raconter parce que je préfère que vous alliez lire le livre.
By that I mean, at some level, they become infertile. And they believe that going into the known world is the key to getting them the very normal things of life back.
En fait, ils sont devenus stériles et ils pensent qu'en envahissant le monde connu, c'est comme cela qu'ils pourront obtenir les choses normales de la vie, comme le fait d'avoir des enfants.
C'est une des dimensions qui est assez intéressante à la fois pour les personnages qui vont découvrir que leur royaume n'était pas si plus ou moins basé sur des bases aussi saines qu'ils ne le pensaient ou du moins moralement acceptables. Là, vous parlez des autres qui ne sont pas forcément aussi effrayants, qui sont simplement différents. Est-ce que vous avez l'impression d'écrire une littérature, ce qu'on appelle un message en France, ou tout du moins que vous avez envie de transmettre des choses à vos lecteurs qui vont plus loin que la simple aventure?
Yes, but for me, if I just had a message, I'd write an essay. You know, I wouldn't write fiction, I would just write the message. I am not a person who feels like I have definite answers to anything. I do have a lot of questions, though. Questions about the way we interact with each other and the way our countries are governed, and there's so much stuff that I am questioning and critical of as well. And in my fiction, the stories as they play out are to some degree based on asking questions about those fundamental things and animating them with characters. And I hope that readers get new perspectives and out of the books, but it's never as if I really think I want you to know this one thing, and I'm going to hit you over the head with it. It's more of an exploration than that.
C'est une sorte de questionnement, en fait, parce que oui, bien sûr, j'ai un message que j'ai envie de partager avec mes lecteurs, mais si je voulais faire passer uniquement un message, j'écrirais des essais et pas de la fiction. Donc je n'ai pas, moi, les réponses. J'ai beaucoup de questions, et mes questions concernent l'interaction entre les gens, entre les pays. Mes questions concernent nos gouvernements. Donc j'ai beaucoup de questions à ces sujets-là, et des questions et des critiques également. Donc en fait, j'écris de la fiction pour faire passer ces questions qui portent sur des aspects fondamentaux de nos sociétés, et je donne vie à des personnages plutôt que de soulever uniquement des questions. Moi, je préfère que ces questions soient sous forme de personnages dans mes romans. Ce sont mes personnages, en fait, qui transmettent mes questions. Et j'ai envie également de partager ces questions avec mon lecteur et que le lecteur voit mon propre questionnement. Donc ce n'est pas un message autant qu'un questionnement, en fait, que j'ai envie de partager avec mes lecteurs.
Also, I think that the books are a journey for each of the main characters to come to eventually realize what things are truly important to them, what things in the end matter the most. And by the end of the third book, I think everyone is pretty much faced with, in a way, their worst fears, and faced with the no more time to put off actualizing themselves and doing the best that they can for the people they love. Earlier, they're all caught up in the game, like George R. R. Martin's Game of Thrones, caught up in the maneuvering and power struggles. But I think they discover something individually at the end. So it's a personal thing as well. And I hope that there's meaning in that.
C'est une sorte de roman initiatique, en fait, pour tous mes personnages. C'est comment ils vont en venir aux prises avec ce qu'ils cherchent et comment ils vont réagir à cette quête. Et à la fin, ils auront à confronter leurs pires craintes et ils auront à confronter un manque de temps pour accomplir ce qu'ils cherchaient à accomplir. C'est une sorte de jeu, comme on voit dans George R.R. Martin, où il y a ce jeu du trône. Donc c'est un petit peu ce genre de quête dans laquelle ils vont se lancer, et à la fin ils se rendront compte que bon, ils n'auront pas nécessairement tout le temps nécessaire à leur disposition pour tout accomplir ce qu'ils souhaitaient accomplir et réaliser tout ce qu'ils souhaitaient réaliser. Donc c'est la confrontation avec leur pire crainte qui importe à la fin du roman.
Bon, le troisième tome est sorti il y a quelques semaines, et on va avoir un nouvel extrait.
Et justement, le troisième tome s'ouvre avec un passage où nous avons donc Corinne, la princesse guerrière, qui entre-temps est devenue reine. Corinne Acaran sortit dans la lumière intense du matin. Elle traversa le pont de son navire de transport, descendit la planche menant au quai du Tay, et marcha droit sur les officiers et les militaires qui l'attendaient. Des hommes, parmi lesquels Melio Charat et le général en deux hommes, des officiers de l'élite et de Marat, s'écartèrent devant elle, éberlués. Bien qu'ils se soient préparés à l'accueillir depuis le matin, tous restèrent un instant à simplement la regarder. La reine portait une armure qui mêlait les influences des diverses provinces de l'Empire. La côte de maille en acier fin et léger couvrait ses bras et se resserrait au poignet, à la mode sénévale. Un talba main enveloppait son torse et collait au contour de ses hanches et de sa poitrine. La jupe, en côte de maille également, était aussi courte que celle d'un coureur talaïen. Des bandes de cuir entouraient ses jambes comme une seconde peau, plus lâche au niveau du genou. Sa cape acaciane, légère, ondulait à chacun de ses pas. Badel, le talaïen, qui avait tout fait pour être le premier à lui parler sur son sol natal, l'accueillit par un déluge de louanges enthousiastes. Il poursuivit par l'expression de ses regrets pour le mal fait au prince, à Aden. La trahison de ces numéraques ne connaît aucune limite. Je n'arrive toujours pas à... Il s'interrompit un instant. Les gardes de l'élite allaient dans le sillage de la reine et incitaient les conseillers à bouger. Ceux-ci trottinèrent pour rester à son niveau, à l'exception de Melio Charat, qui semblait très à l'aise et lâcha sur son passage. « Votre Majesté, je ne vous avais encore jamais vu en armure. » « Nous sommes en guerre, » lui répondit Corinne, « et dans ces circonstances, je suis comme n'importe quel citoyen du monde connu. Général Hanson, dites-moi tout. » Par cette formule, elle entendait les derniers renseignements obtenus sur la situation. Les lèvres tordues par une grimace maussade, le général s'exécuta. La première vague de Marat avait envahi les demeures que les Numrecs occupaient au bord de la mer, les prenant par surprise. Les combats s'étaient déroulés dans les maisons, sur les plages, et les jetés, dans les jardins, tous ces endroits où les Numrecs s'étaient prélassés au soleil. Très vite, le littoral avait été occupé. Des unités de l'élite s'étaient alors enfoncées vers l'intérieur des terres. Nous les avons acculés dans une forteresse située sur une colline que les gens du coin appellent le Pouce, expliqua le général. C'est une ancienne structure. Nous n'y avions pas pensé, mais ils ont dû en renforcer les remparts et y stocker de quoi tenir un siège. Ils ont eu tout le temps nécessaire pour préparer leur trahison. Chaque jour, nous les provoquons pour qu'ils se battent. Mais ils refusent tout engagement désormais. Ils sont devenus couards, dit un jeune officier. Non, ils jouent avec nous, rectifia Melio. Ils envoient leurs enfants sur les remparts pour lancer des oiseaux en papier. Ils sont très forts pour ce genre de choses. Le regard en biais que lui jeta un deux ans était nettement désapprobateur. Melio eut un petit haussement d'épaule et articula en silence. Eh bien, quoi, c'est vrai? C'est un jeu de patience, dit en deux ans. La forteresse a été construite au sommet d'une colline. Il n'y a qu'un seul chemin qui y monte en spirale, et il y est trop étroit pour une armée. Nous avons lancé des pierres et des explosifs par-dessus les murailles, mais ils sont bien protégés. Il existe des tunnels à l'intérieur de la colline, auxquels on n'accède que de la surface. Il y a également une source. La solution serait peut-être de les assiéger jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Une stratégie peu héroïque, commenta Corinne. « Je préférerais une bataille honorable, votre majesté, mais certains adversaires rendent cette option impossible. Ces Numrecs sont des êtres infâmes, ils ont massacré leurs propres serviteurs, vous savez, et ils ont fait un mur de leurs cadavres à la base du Pouce, si vous aviez vu. » Corinne l'interrompit. Général, je ne doute pas que vos soldats aient agi comme il convient. Et j'ai toute confiance en votre commandement. Je suis arrivé à présent. Je vais régler cette affaire.
Voilà. Yes. On peut peut-être simplement l'applaudir pour sa lecture, parce que c'est vraiment bien.
Yes, thank you. And in that scene, that's Corin at the height of her powers. She's got the world. And the thing is that as this book progresses, that's in the third book, the very thing that makes her the most powerful is the very thing that manages to be taken away from her. Just as the biggest threat ever to her empire is arriving. And she has to go forward finding other ways to be strong and to solve to meet that threat and to create a better future. But I'm a writer that likes to make things hard for my characters. So yes, she has amazing power, but when she needs it, that power's gone and she has to find other ways forward. That's what I find interesting.
Alors, dans cette scène, Corin était au fait de ses pouvoirs. Elle est vraiment au maximum de ses pouvoirs et elle va perdre ses pouvoirs. Et elle devra ensuite chercher, juste à un moment, elle perdra ses pouvoirs au pire moment pour l'Empire, là, à un moment où l'Empire est directement menacé. Et elle devra chercher d'autres moyens, d'autres solutions, d'autres pouvoirs pour faire face au danger. Et moi, j'aime bien mettre mes personnages dans ce genre de situation où ils devront faire face et chercher d'autres solutions. C'est ce que j'aime bien faire.
Alors, le temps file. Hein. Il nous reste à peine une petite dizaine de minutes. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à David Lindgren ? Profitez-en. C'est le moment. Soyez pas timide, vous avez
dans le charret.
Oui, monsieur, bien fort. Hein.
Si Mina, c'est un peu votre épouse, est-ce que Melior, c'est un peu vous?
Is Melior you?
In the book. No, that's some other man.
Non, c'est quelqu'un d'autre.
I hadn't thought about that, I'll have to talk to her.
J'avais pas pensé à ça, il faudrait que je lui en parle.
Est-ce que quelqu'un a une autre question à lui poser ? Encore une fois. Simplement, quand on a vécu pendant des années avec ces personnages, c'est facile de terminer une série de fantasy, de dire ok, ça ne dépassera pas la trilogie. Ou est-ce qu'on a la tentation de poursuivre un petit peu ?
I am very proud to have wrapped this series up in a trilogy. And I believe that the ending closes, ties together in some way or another, very complex threads and character arcs. So, I'm glad I could say that's the end. Do I think that I've said goodbye to the characters really? No. They're both because they exist in this book already, and because given a little bit of time and the right story, I would be very happy to go back to Acacia. It's not over yet with them.
Je dois dire que je suis très contente d'être arrivée à la fin de la trilogie, d'avoir vraiment tout bien terminé, d'avoir mis un point final, et vraiment j'en suis très heureux. Mais est-ce que j'en ai fini avec mes personnages ? Peut-être pas tout à fait, parce que avec le temps, avec une histoire qui me viendrait, une autre histoire, c'est tout à fait possible que je retourne à Acacia et à ses personnages.
Bon, on a la chance d'avoir l'éditrice dans la salle, Carola. Est-ce qu'elle accepterait de nous dire un petit mot simplement sur qu'est-ce qui fait la force de cette série ? Si Carola Strong des éditions de Peau Claire vient nous rejoindre. C'est un peu des beautés, hein, les peaux au courant. J'en profite honteusement, je l'avoue. Mais c'est une chance.
C'est vrai qu'on a eu un énorme coup de cœur pour le premier tome d'Acacia, mais on l'a découvert en anglais. Et on a eu plusieurs éditeurs d'ailleurs à découvrir ce texte. Donc on est parti dans l'aventure sans en connaître la fin. Et on a découvert donc au fil de l'écriture de David en autocadurum l'univers, ce qui nous a énormément plu. Et je crois qu'il fait la force de l'univers d'Acacia, c'est qu'on est bien sûr d'abord et avant tout dans l'aventure de la fantasy avec un grand F tel qu'on l'attend, c'est-à-dire un combat absolument fabuleux, planétaire, entre des peuplades extraordinaires, parce qu'il y a des humains, il y a des créatures absolument fantastiques dans l'univers de Durham, mais qu'il y a au-delà de ça, une écriture extrêmement riche. Merci encore pour la lecture de tout à l'heure. Bien sûr, c'est de l'action, c'est très évident, mais c'est aussi une vraie musique littéraire. Et je crois que le travail qui a été fait de traduction le montre très bien. Donc c'est vraiment de la littérature tout court, comme on le dit, bien sûr, du genre, mais de la littérature. Et le troisième élément qui nous a vraiment plu et qui fait, je crois, que Acacia est une série originale, c'est que le monde que imagine Durham, et bien sûr, n'est pas notre terre, mais aussi il est composé de royaumes avec des créatures bonnes ou mal, mais c'est surtout que ces personnages ont une très grande profondeur, qui ne sont pas manichéens, qui vont évoluer dans le temps et que finalement ils affrontent. Ce qu'affronte tout un chacun et ce qui fait que souvent la littérature est universelle, c'est-à-dire qu'ils affrontent la notion du bien et du mal et que tout ce qui fait bouger le monde d'Acacia, c'est finalement aussi toutes les questions qui se posent dans le monde moderne. On l'a beaucoup dit au moment où on a sorti le premier volume de l'Acacia, que l'Acacia, ça fait aussi réfléchir sur ce qu'est la notion de l'esclavage, de la domination et du pouvoir. Je crois que c'est aussi toute cette réflexion-là qui est présente dans l'Acacia qui en fait un fabuleux roman d'aventure, mais dont on ne sort pas indemne. Et c'est finalement aussi peut-être parfois ça qu'on attend de la littérature de fantasy, c'est ce plaisir.
Thierry Arsan, bon, la traduction. Vous vous retrouvez dans ce que dit votre éditrice?
I couldn't disagree with Carola. I am honored that Le Player picked me up and has had such dedication to the books, published them so well, translated them so well, and been kind enough to help get me here twice. I couldn't be happier, really. As for all the nice things she says, what can I say? I am honored.
Bien, je ne peux pas faire autrement que d'être d'accord avec Carola. C'est difficile de ne pas être d'accord avec elle. Et tout ce que je peux dire, c'est que je suis extrêmement reconnaissant à la maison Préau-Clair, qui m'a fait venir déjà deux fois en France et qui m'a vraiment soutenue dans ce projet. Et toutes les choses gentilles qu'elle a dites à mon égard, eh bien, je suis vraiment très reconnaissant et c'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être publiée chez Préau-Clair.
Voilà, mais on va s'arrêter là, puisqu'il y a une autre conférence qui suit. Merci à vous, vous l'avez compris, c'est un univers très riche vraiment à découvrir. Il sera en dédicace tout de suite. Merci à tous et merci à David Anthony Durham. Et puis évidemment à Carola, à Jocelyne et à Nicolas. Merci.